Dans ce journal, on va écouter ces discussions qui sont en cours à la CPS. Des discussions, il y en a aussi du côté du Haut-Saria pour parler nucléaire. Et puis, notre Miss Tahiti s'envole ce soir pour la métropole. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
On commence avec ces discussions en cours à la CPS.
Oui, le conseil d'administration de la Caisse est réuni en ce moment même pour une séance importante, celle du vote du budget 2024. Un budget qui atteint les 150 milliards de francs, tout régime confondu, en comptant l'assurance maladie, les retraites et prestations familiales. Un budget qui est toujours en augmentation, principalement sous l'effet des dépenses de santé, qui sont toujours aussi difficiles à contrôler. On vous en dira plus une fois ce budget voté par le Conseil, ça devrait être cet après-midi. A noter que le Conseil était déjà réuni hier, il a rejeté une prime de 210 000 francs qui devait être versée à tous les agents de la CPS. La question pourrait être réétudiée.
Et puis une autre discussion en cours du côté du Haut-Commissariat.
Ou plutôt une restitution, celle des derniers travaux de la commission d'information auprès des anciens sites d'expérimentation nucléaire du Pacifique. Une commission qui, comme tous les ans, se veut rassurante, avec des niveaux de radioactivité extrêmement faibles, je cite, relevés dans les bénitiers et même nul dans la chair de coco, et ce, quel que soit l'archipel. L'exposition de la population polynésienne au rayonnement ionisant est quasi exclusivement d'origine naturelle et la zone moyenne d'exposition est deux fois plus faible qu'en métropole, je cite toujours. Du côté de Moruroa et Fangataufa, la radioactivité des fonds lagonaires serait stable et sans incidence, toujours d'après cette commission sur le milieu océanique. Quant au risque d'effondrement du récif, peu d'évolution là encore. Il est d'après les experts de l'État très improbable à Moruroa, mais pas complètement impossible. Là encore, la commission se veut rassurante. La vague qui serait engendrée serait prévisible et ne toucherait quoi qu'il arrive pas le village principal de Touraya, l'île habitée la plus proche des sites d'essai. Des conclusions qui viennent d'être présentées et qui n'ont donc pas encore été commentées par la majorité Tavini ou par les associations anti-nucléaires.
On s'intéresse aux fonciers puisque le pays achète de la terre.
Ou cherche à en acheter du moins avec cette autorisation de programme à 1 milliard de francs qui faisait partie du collectif budgétaire voté hier. Son objet, l'achat par préemption d'un terrain de 83 hectares situé au PK18 à Paea, entre Temaruata et la vallée de Papehue. Et le gouvernement a déjà des grands plans pour ce domaine, Charles Irénée.
Oui, c'est peu de le dire, c'est un achat à vocation multiple, Valdemar. L'exécutif parle de faire naître des espaces verts publics sur la partie haute, de constituer de nouvelles exploitations agricoles en moyenne montagne et surtout de construire des logements sociaux sur la plaine. Certains élus ont aussi proposé de choisir ce site pour ériger un nouveau collège-lycée qui est de plus en plus nécessaire entre Punaouya et Paea. Mais comme cela a été précisé en commission, la zone est aussi traversée par une emprise réservée, celle de la route du Sud. Le projet très disputé de voie rapide avait été suspendu partout, sauf à Punaouya, entre la Punaru et la limite de Paea. Et le gouvernement Brotherson ne semble pas vouloir renoncer à ses plans. Les consignes ont été bien claires de conserver cette possibilité inscrite au PGA. Voilà ce qu'a précisé la vice-présidente Eliane Teveitoa.
Voilà, et à noter que malgré le vote de ce programme à 1 milliard, rien sur l'achat de ce terrain. Les préemptions ont une fâcheuse tendance à finir devant la justice. Rendez-vous dans quelques mois donc.
À Bora Bora, l'ex-méridien change de nom et rouvrira mi-2024.
Oui, l'ex-méridien, propriété du groupe Van, subit depuis 2020 d'importants travaux de rénovation et d'extension. 138 bungalows, dont 85 sur pilotis, c'est bien plus qu'un lifting qu'a subi l'hôtel racheté par Louis Van à EDT début 2017. L'établissement avait fermé ses portes, souvenez-vous, quelques semaines après le début de la crise Covid, ce qui avait impliqué un plan social et des départs volontaires pour 180 salariés. Une fermeture alors annoncée pour au moins 18 mois par le propriétaire qui expliquait vouloir agrandir et rehausser le niveau de prestation de l'établissement. Et le chantier touche à sa fin, les recrutements ont d'ailleurs commencé. Mais le 5 étoiles ne retrouvera pas son enseigne Le Méridien, il deviendra à sa réouverture le Westin Bora Bora Resort and Spa. Un changement de nom accompagné d'un nouveau style épuré, ouvert et tourné vers le bien-être pour un complexe adapté aux jeunes générations selon les porteurs du projet. Ouverture prévue donc au deuxième trimestre 2024.
On poursuit avec ce fait divers. Un militaire est décédé hier soir.
Oui, ça s'est passé à Hitia, dans la vallée de la Mahateaho. Le quartier maître de première classe Clément Hélard, militaire qui participait à une marche d'aguerrissement, s'est retrouvé en difficulté avec son groupe avant d'être porté disparu. La direction de la protection civile a engagé l'hélicoptère Dauphin, qui a procédé à plusieurs élitreuillages par le groupe d'intervention en milieu périlleux des sapeurs-pompiers. Le corps du militaire disparu a finalement été retrouvé par le Dauphin dans une zone particulièrement difficile d'accès. Il a été élitreuillé et déclaré décédé par le médecin à 21h. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.
Justice, hier au tribunal, un homme a été condamné à un an de prison ferme.
Il avait donné des coups de tournevis à un jeune qui s'était introduit avec deux amis dans son fa-apu. Il a expliqué s'être défendu à l'aveugle lors d'un accrochage qui a dégénéré. En pleurs, il a raconté à la barre que c'est un geste involontaire et qu'il n'avait jamais voulu faire ça. Un discours qui n'a pas tenu la route pour le ministère public qui a mis en avant le pédigré judiciaire important du prévenu, déjà condamné pour violence conjugale mais aussi pour violence contre personne dépositaire de l'autorité publique. Verdict donc, 2 ans de prison, dont un ferme avec mandat de dépôt.
Et sur le terrain politico-sportif, on parle encore et toujours de cette fameuse tour des juges.
Oui, car les déclarations de Moetei Brotherson sur la difficulté de la gestion de ce dossier ont semé le trouble tout autour de la planète surf. Certains en métropole notamment spéculent déjà sur un abandon de l'organisation des Jeux par la Polynésie. Eh bien non, répond la ministre des Sports Nahima Temari, qui est revenue mercredi d'une visite à Paris où elle a notamment croisé le président de Paris 2024, Tony Estanguet. Et pour une raison simple, la Polynésie a signé un contrat pour l'organisation et compte bien le respecter.
Donc il n'est pas question pour l'instant de reporter ces jeux, de les amener ailleurs. Si on ne veut pas des jeux, si on ne les fait pas, si on ne les tient pas, eh bien il faut tout simplement que ce soit une autre ville qui puisse les organiser, ce qui nous embêterait et qui ne nous convient pas au gouvernement, puisque ça voudrait dire financer l'organisation ailleurs.
La ministre de la Jeunesse et des Sports confirme aussi que 6 solutions différentes ont été mises sur la table et que Paris et Papeete les étudie ensemble ou les écarte comme l'option de juger la compétition depuis la plage. L'homologation de la vieille tour en bois reste une porte de sortie privilégiée, mais Nahima Temari assure que la nouvelle tour en aluminium, fabriquée toujours en montage à terre, n'est pas complètement hors des débats. Il suffirait de trouver un moyen de l'installer, mais sans perforer le platier.
On parle de la tour en aluminium, mais en réalité, qu'est-ce qui fait défaut ? Ce sont les fondations et c'est là-dessus que nous on travaille. Parce que si jamais les fondations pouvaient être renforcées sans pour autant détériorer ou sans pour autant venir ajouter des perforations supplémentaires pour accueillir cette tour en aluminium, ça pourrait être une solution.
Et l'autre possibilité qui a été citée mercredi par Moetei Brotherson, c'est celle d'un déplacement de l'épreuve à la Taharu'u, une solution très incertaine qui ne plaît bien sûr pas à la mairie de Taiarapu Ouest et qui ne convainc pas non plus le comité d'organisation. Il l'a fait savoir. Nahima Temari veut rassurer, ce n'est pas l'option privilégiée. Pour le reste, même discours que le président, pas plus de réponse avant le 15 novembre. Ce sera la prochaine réunion technique sur les Jeux.
Et pour finir ce journal, c'est la dernière ligne droite avant Miss France pour Ravaire Siou.
Oui, élue Miss Tahiti le 23 juin dernier, la jeune femme se lance dès ce vendredi soir dans le long périple qui la conduira le 16 décembre sur la scène du Zénith de Dijon. Après plusieurs séances de coaching pour travailler la prestance, la présence scénique, l'élocution et la culture générale, la Miss est prête à entamer cette aventure unique, dit-elle. Une aventure qu'elle va démarrer aux côtés de sa cousine Toumateata Buisson, Miss Tahiti 2021. Ensemble, elles feront un premier stop de 3 jours aux États-Unis, l'occasion pour la reine de beauté de retrouver ses sœurs qui y étudient, mais aussi d'échanger avec Mareva Georges, sacrée Miss France en 1990. Écoutez son ressenti à la veille du départ.
Pour être honnête, il y a quand même de la pression surtout à la veille du départ, parce que déjà les petites, elles nous ont habitués quand même à être bien classées, donc j'ai envie de faire aussi bien qu'elles. Après, c'est surtout de l'excitation, parce que j'ai déjà pris contact avec certaines Miss régionales, donc j'ai hâte d'enfin les rencontrer. C'est une aventure unique, je pense que ça se vit qu'une fois dans la vie, beaucoup d'excitation surtout. Ouais.